Et nous lisons dans l'Évangile de Luc, le chapitre 24, les versets 13 à 35. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda : De quoi discutez-vous en marchant ? Ils s'arrêtèrent tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit : Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ? Quoi donc ? Leur demanda-t-il. Ils lui répondirent : Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tous les peuples. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais en plus de cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces faits sont arrivés. Quelques femmes de notre groupe nous ont frappées de stupeur, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter qu'elles avaient eu une vision des anges. Des anges qui leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns d'entre nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils n'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ? Puis, il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent avec insistance en disant : Reste avec nous, car le jour baisse et déjà la nuit approche. Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et dit une prière de bénédiction. Puis, il partagea le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre : N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec les autres qui disaient : Le Seigneur est vraiment ressuscité, il est apparu à Simon. Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où ils partageaient le pain.
Voilà donc en ce deuxième dimanche après Pâques, un autre récit d'apparition, de manifestation du ressuscité à certains disciples, jamais tous en même temps. Nous quittons Matthieu que nous avons lu jusqu'à présent et pour nous retrouver dans l'Évangile selon Luc. Il y a aussi d'autres apparitions du ressuscité, vous savez, ce repas à la fin de l'Évangile de Jean où Jésus les attend sur la plage. Ces récits sont très différents, mais disent aussi des choses assez proches, assez semblables. Le repas sur la plage nous renvoie aux disciples raccommodeurs de filets qu'ils étaient, recrutés dans cet état, retournés à leur ancien job finalement, retournés dans l'ordinaire de leur vie, parce que c'est là qu'on les renvoyait, mais différents bien sûr, parce qu'ils avaient rencontré ce maître absent, mais quand même présent sous une certaine forme. Et ici, chez Luc, c'est la manière dont Luc a choisi de manière vraiment originale, parce qu'on ne trouve ce texte que chez lui, un peu comme la parabole du bon samaritain, on ne la trouve pas dans d'autres évangiles, c'est propre à Luc. Et ce récit, chez lui, occupe une place très particulière parmi tous les témoignages de la résurrection. On peut se souvenir aussi de Marc, qui, lui, terminait brutalement son évangile par des femmes qui ont peur. Ça finissait sur une espèce de stupeur, comme ça, qui bloque au constat brut du fait de la résurrection. Et puis, c'est terminé. Pas d'apparition par la suite, mais c'est aussi l'évangile le plus ancien. C'est celui qui a été le moins remanié, le moins augmenté aussi par la suite. Luc choisit de faire ici, lui, un récit tout à fait détaillé, parce que Marc évoque quand même deux pèlerins, deux disciples qui s'en vont. Mais on n'en sait pas grand-chose quand on s'en tient à Marc, qui est toujours plus concis. Luc, lui, donne beaucoup de détails, il en fait un récit détaillé, presque intime, sur ce qui se passe en eux, leur découragement, leur changement d'humeur, une brusque conversion, il rebrousse chemin, il nous détaille tout cela dans cette belle histoire, pour ouvrir un espace d'interprétation où la résurrection ne s'impose pas comme une évidence brute, il ne finit justement pas comme Marc, où il faut constater que le tombeau est vide et puis c'est terminé, mais pour découvrir progressivement, en suivant ses disciples qui marchent lentement jusqu'à la tombée de la nuit, entraînant leur découragement, comme ça on les suit en même temps. La résurrection s'inscrit dans cette expérience humaine intérieure, partagée à deux, puis à trois, parce qu'une autre personne les rejoint en chemin. Alors nous sommes au lendemain de la crucifixion, Jérusalem, vous le savez, est secouée par des événements tragiques, ceux qui ont mené à la mort de Jésus, mais il y a aussi la recherche des autres disciples qui sont traqués. On comprend très bien pourquoi ces deux-ci prennent la tangente et quittent une ville dont ils n'attendent plus rien parce qu'elle est devenue dangereuse pour eux. Deux disciples quittent la ville pour se rendre à Emmaüs. Évidemment, ce n'était pas une étape, un objectif particulier, c'est un tout petit village, de rien du tout. C'était la tombée de la nuit, c'est là qu'ils s'arrêtent. Ce n'était pas une destination visée par eux. Quelques stades, dans les anciennes traductions, on nous dit que ça a quelques stades, ça dépend de quel sport, hein, évidemment. Si c'est du rugby ou du foot, ce n'est pas la même longueur. Une dizaine de kilomètres, assez pour marcher, disons, deux bonnes heures, à bon pas, ou si on marche en parlant, peut-être un peu moins vite, deux heures, trois heures, où on a le temps de se dire beaucoup de choses. Ces disciples marchent, parlent, tentent de comprendre ce qui vient de leur arriver, et il leur faut bien deux heures et demie ou trois heures de marche pour remuer tout cela. C'est un temps nécessaire. Leur marche est géographique, évidemment. Ils quittent Jérusalem et vont vers Emmaüs, donc ils vont vers la mer, ils vont vers l'ouest, vers le couchant. C'est important de retenir l'emplacement du soleil et le moment de la journée aussi. Ils se dirigent vers le couchant en disant leur découragement. Donc vous voyez, ça va vraiment vers quelque chose, vers une fin. Voilà. Mais cette marche, en plus d'être géographique, est existentielle aussi. Ils s'éloignent du lieu du drame. Ils laissent dans leur dos Jérusalem, qui est un lieu de perdition. Le lieu où l'espoir qu'ils entretenaient pendant très longtemps s'est totalement effondré. C'est ça qu'ils quittent. Ils tournent le dos au désespoir. Donc ils sont déjà en chemin vers autre chose aussi, d'une certaine manière. Pour eux, tout est terminé. Celui qu'ils avaient suivi pendant longtemps, celui qu'ils avaient connu et dont ils connaissaient le visage, ils l'avaient reconnu comme un maître, peut-être davantage. Ils avaient tous leur manière de le comprendre, de comprendre son enseignement. Celui-là avait été exécuté et il était mort. Ils espéraient beaucoup de choses, un salut, un renouveau, tout cela était terminé. Il ne leur reste que la déception, l'incompréhension et sans doute aussi une certaine peur, même s'ils quittent le lieu où les autres restent enfermés dans une petite pièce. Ils s'en éloignent, mais la peur est quand même avec eux. D'ailleurs, leur conversation, quand on relit le texte, est bien habitée par ce genre de choses. Ils revisitent ces événements, ils cherchent des explications, mais ils ne parviennent pas à redonner sens à ce qui s'est passé. Il y a ces débuts, ces milieux de phrases « nous espérions que », mais voilà bientôt 3 jours que. Il ne leur reste que cela. Ils revisitent tristement un fiasco retentissant et ils n'ont que cela comme sujet de conversation pour habiter leur fuite. Donc vous voyez à quel point ils sont au fond du trou. Aucun objectif, même pas Emmaüs, qui n'est qu'une halte provisoire, ils veulent seulement s'éloigner d'un malheur trop grand. Et puis, parce qu'ils ont entendu beaucoup de choses quand même avant de partir, et c'est aussi une part de leur conversation, il y a des rumeurs qui circulent. Des femmes auraient trouvé le tombeau vide, parlé d'une apparition d'anges, etc. Mais c'est une parole qui ne les a pas retenues apparemment, ils sont quand même partis. Ça n'a pas été suffisant pour les retenir. Trop déroutant, trop éloigné de l'expérience concrète de la mort, parce que ça, ils l'ont bien vu. Et après ça, ben, ce n'est pas un petit conditionnel de rien du tout qui peut vous faire rebrousser chemin. Il faut plus, il faut mieux. Entre ce qu'ils ont vu, la crucifixion, et son résultat immanquable, hein, et ce qu'ils entendent, une improbable résurrection, le fossé est trop grand pour eux. On a l'impression que leur chemin, c'est aussi passer la passerelle, traverser le pont entre les deux rives pour arriver à comprendre ce qui les attend de l'autre côté. Il faut du temps, de toute façon, pour passer de l'un à l'autre. Mais le fossé est grand. Ils préfèrent, pour l'instant, en tout cas au début de leur marche, rester du côté de ce qui paraît sûr et certain, Jésus est mort. C'est dans ce contexte que le troisième personnage survient. C'est Jésus lui-même qui marche à leur côté, mais eux ne le reconnaissent pas. Cette non-reconnaissance, c'est vraiment un point important de cette histoire. C'est peut-être le centre même, ne pas le reconnaître alors qu'il est là. Ne pas comprendre ce qu'est la résurrection alors que c'est sa manière d'être présent sous une autre forme qui nous déroute. Cette non-reconnaissance est bien le cœur du récit et elle peut être comprise de beaucoup de manières différentes. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Peut-être qu'il s'agit d'un procédé narratif, une manière de dire pour Luc que la résurrection ne se donne pas immédiatement à voir. Une mort, ça se constate, un tombeau vide aussi. Mais une résurrection, combien de temps faut-il pour comprendre ce que ça veut dire ? La résurrection, pour Luc, ne s'impose pas comme une preuve évidente. Elle demande de marcher 2h30, 3h, une bonne partie de sa vie peut-être. Une partie du chemin vers le couchant, vers la fin, et puis rebrousser chemin et retourner vers l'est, c'est-à-dire vers le lieu où le soleil, le lendemain matin, va se lever, vers la lumière qui apparaît. Il faut une transformation assez longue et peut-être assez coûteuse. Ce qui est frappant, c'est que Jésus ne s'impose pas. Il ne les interrompt même pas dans leur malheur. Il pourrait leur remonter le moral quand même. Une petite tape sur l'épaule, ça ne coûte rien. Allez quoi, allez, vous laissez pas tomber, vous plombez l'ambiance les gars, haut les cœurs, etc. Peut-être que pour que remonter et comprendre tout ce qu'ils ont perdu et pas encore compris ce qu'ils ont gagné en échange, il faut les laisser descendre. En tout cas, ils ne leur coupent pas la parole. Ils parlent entre deux, un troisième marcheur arrive à leur côté, pas un regard de côté, vous savez, non. Tiens, il y a quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, on s'en fiche, on a des choses à se dire. Et puis il continue comme ça. Jésus ne les interrompt pas, il les rejoint là où ils en sont, dans leur conversation, et il faut bien qu'elles finissent. Il écoute leurs histoires, leurs déceptions, leurs incompréhensions. Ce n'est pas un accident, il a cette fonction-là, d'écouteur, d'écoutant plutôt, de ces histoires-là. Après, il prendra la parole pour leur dire autre chose. Il les laisse aller jusqu'au bout de leurs paroles. Ce respect du chemin humain est essentiel. On voit peut-être Dieu autrement quand on imagine qu'il est à nos côtés de cette manière-là, sans même nous couper la parole. Pas de révélation qui écrase, mais une présence qui accompagne. Eh bien, ça dit autre chose. Et puis, il vient le moment de l'interprétation. Jésus prend la parole Et il avait sa Bible avec lui, bien sûr. Il relit avec eux les Écritures. Il y a toujours une Bible quelque part. Hein. Il ne leur apporte pas de démonstration spectaculaire. Il ne leur dit pas non plus qu'ils n'ont rien compris ou qu'ils se sont constamment trompés. Rien de tout cela, même si, à un moment donné, il souligne leur lenteur à comprendre. Voilà. Mais ils ne sont pas traités d'épais, comme on dit au Québec, ou d'abrutis. Voilà. Vous êtes lent, c'est mieux déjà. Il propose un autre regard sur ce qu'ils ont vécu. J'ai entendu votre histoire, c'est pour ça que je voulais laisser finir jusqu'au bout. Mais je vais relire vous avez dit votre histoire et on va la relire à la lumière des Écritures et vous verrez, elle voudra dire autre chose. Maintenant, c'est à moi de parler. Les événements ne changent pas, mais le sens de ce que vous avez vécu peut très bien être transformé. Cette résurrection complètement improbable peut être comprise comme une relecture de votre vie, et je vais vous l'expliquer. Une manière nouvelle d'interpréter ce qui semblait voué à l'échec, et vous verrez, vous comprendrez les choses autrement. Et c'est ce qui arrive. Mais ce n'est pas dans le discours que les disciples reconnaissent Jésus. C'est toujours le marcheur anonyme, sa tête nous dit quelque chose, ses propos nous rappellent encore quelque chose, mais on ne l'a toujours pas reconnu. Une fois que les discours sont terminés, il y a ce geste simple, le partage du pain, comme nous le ferons tout à l'heure, et c'est à ce moment-là qu'ils le reconnaissent. Le moment concret, symbolique, c'est à ce moment-là qu'on se dit, oui, il est vraiment, c'est lui, il est vraiment là. Il renvoie une expérience de communion et de présence partagée. Nous ne disons pas autre chose en faisant ce que nous faisons et que nous reproduirons tout à l'heure. Et au moment où, ça y est, on a compris, hop, il disparaît. Comme si la reconnaissance ne pouvait pas être fixée. Hein, comme cet homme qu'on retient par le vêtement et qui s'en va. Celui qu'on attendait comme roi et qui se faufile en disant « ce n'est pas ce que je suis venu faire ». Il échappe toujours, une anguille. Comme si la présence d'un ressuscité ne pouvait pas être retenue parce que il faut faire tout ce qu'on veut avec un ressuscité, sauf ça, sauf le retenir. La résurrection, ce n'est pas la restauration d'une présence physique permanente. On veut le garder auprès de nous, même sous forme de relique. C'est le début d'une présence d'un autre ordre, plus discrète et plus intérieure. Et là, il suffit de marcher dans un sens, puis rebrousser chemin, repartir dans l'autre, et on a ce qu'il faut. On l'a en nous, plus besoin de retenir quoi que ce soit. Les disciples prennent conscience de ce qui s'est passé. C'est à ce moment-là qu'ils disent « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous ou au-dedans de nous ?» Ils renouent avec une espèce de chaleur qu'ils avaient perdue. Retour au foyer, si on peut dire. Cette phrase suggère que la présence du ressuscité ne passe pas seulement par la vue, mais aussi peut-être par une expérience intérieure, une lumière solaire avec sa chaleur qui l'accompagne, qui revient, les nuages qui passent, ou quelque chose qu'on sent au-dedans. La résurrection devient une expérience vécue, ressentie, interprétée. Elle a du sens, mais on la sent en soi comme une chaleur qui revient. À partir de là, l'attitude des disciples change. Ils repartent vers Jérusalem et ils le font de nuit. Il faut quand même du courage après avoir marché beaucoup, traîner son désespoir, arriver enfin dans un endroit où on peut se reposer pour se décider à rebrousser chemin en pleine nuit pour repartir dans l'autre sens, en direction du soleil levant, de l'espérance. Malgré les risques qui les attendent, parce que Jérusalem, elle, n'a pas changé. C'est toujours la même effervescence bouillonnante qui les attend. Le mouvement, pourtant, s'inverse malgré les risques. Il passe de la fuite à l'engagement, du découragement à l'élan. Ils retournent à Jérusalem parce qu'ils en ont envie, parce que c'est là qu'il faut être. Mais là encore, il ne s'agit pas nécessairement d'un bouleversement instantané. Luc a le bon goût de nous l'écrire en une vingtaine de versets. C'est gentil de sa part. Combien de temps a-t-il fallu à ces gens pour s'apercevoir que l'espoir était devant eux et plus derrière? Il a fallu, malgré ce récit de quelques lignes, un processus plus long, plus complexe. De combien de temps ont-ils eu besoin en réalité, on ne sait pas. La transformation intérieure prend du temps. Elle peut être faite d'hésitation, de retour en arrière, de compréhension progressive. D'autres ont bien passé 40 ans dans un désert avant d'émerger de l'autre côté. La résurrection n'apparaît pas d'abord comme un fait à croire de manière uniforme, mais comme une réalité à interpréter. Et là, ce n'est plus un fait unique à voir, c'est les différents sens multiples qu'on peut donner à une chose. On passe du singulier au pluriel. Le récit d'Emmaüs ne propose pas une définition de la résurrection. Heureusement pour nous, ce serait pratique, on pourrait la réciter comme on récite bien d'autres choses, mais qu'est-ce que ça nous apporterait ? Rien du tout. Pas plus que de faire de la résurrection un fait passé, par nature impossible à reproduire, et qui nous coincerait dans le rétroviseur. Si en revanche c'est quelque chose qui se prête à l'interprétation, c'est inépuisable. Nous sommes gagnants, vous êtes d'accord ? Le récit d'Emmaüs ne propose pas une définition, mais un schéma d'expérience, de lecture ou de relecture, comme les disciples, et d'appropriation. Certains pourront y voir la manifestation d'une présence réelle, d'autres une manière de dire que l'enseignement et la vie de Jésus continuent de nous inspirer, de nous transformer. D'autres pourront lire une métaphore du passage du désespoir à l'espérance, et c'est vrai aussi, finalement. Il y a beaucoup de manières de comprendre ce texte. Il ne ferme pas ses interprétations, au contraire, il les rend possibles, à peu près toutes. Dans cette perspective, la question donc n'est sans doute pas que s'est-il exactement passé, pas plus que dans le cas du tombeau vide. Ce serait plutôt, qu'est-ce que ça change pour nous ? Que s'est-il passé ? C'est une question formulée dans un temps du passé. Qu'est-ce que ça change pour nous ? C'est une espèce de présent ouvert sur l'avenir dont on ne voit pas la fin. Derrière le point d'interrogation, vous avez des points de suspension. Comment, dans nos journées, parfois marquées par la fatigue, la perte, le doute, toutes sortes d'expériences qui feraient tourner le dos et s'en aller, quelque chose peut-il se relever pour nous, se rouvrir et reprendre sens ? Voilà la question que posent les disciples, et leur retournement peut, doit être aussi le nôtre à un moment ou à un autre. Ce récit suggère que ces expériences passent par des choses très simples. La parole partagée, l'écoute, la relecture entêtée, et puis finalement un repas, du convivial, des choses qu'on goûte ensemble parce qu'elles sont bonnes et puis qui nous rendent notre énergie aussi et nous permettent de continuer notre journée. C'est tout cela, les circonstances de cette résurrection particulière. Rien d'extraordinaire, on est loin de l'échelle de Jacob, d'un buisson qui brûle mais sans se consumer, c'est bien ça, hein, ça marque, mais rien de tout cela ici. On est loin des songes prophétiques du prophète Samuel aussi. On est loin de tout ça, rien d'extraordinaire. Ce sont des lieux ordinaires où peut se vivre quelque chose d'extraordinaire. C'est ça le cadre de la résurrection. La présence du ressuscité n'était pas à chercher dans des manifestations spectaculaires, mais dans des moments où une parole éclaire, où un lien se recrée et où une espérance se renaît. À ce moment-là, même si on ne l'a pas vu arriver à nos côtés, d'une certaine manière, mais efficace, il est là. C'est aussi étonnant que les disciples ne reconnaissent pas Jésus immédiatement. Quelle bande d'ingrats ! Après l'avoir côtoyé pendant toutes ces années, avoir cheminé avec lui, préparer la Pâque, manger avec lui, ne pas le reconnaître quand même. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne le reconnaissent pas qu'il n'est pas là. Les deux sont vrais en même temps. Et c'est vrai pour les églises aussi. Nous n'avons pas une présence extraordinaire, remarquable, comme preuve à démontrer à d'autres. Mais par la parole et par des gestes simples, dire qu'il est là, même si nous ne le reconnaissons pas, et même si ceux à qui nous l'annonçons, en regardant partout, même dans les coins, n'arrivent pas à le trouver, en tout cas pas sous la forme qu'ils s'imaginaient. C'est comme ça pour tout le monde, finalement. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas reconnu qu'il n'est pas présent. C'est ça, la résurrection. Ça nous renvoie à notre propre difficulté à percevoir ce qui, dans nos vies, relève de la vie qui renaît. Nous ne sommes pas toujours capables d'identifier ces moments. Nous cherchons parfois des signes évidents, des choses un peu extraordinaires qui marquent, qui se remarquent plutôt. Alors que la transformation, souvent, est plus discrète, plus longue, plus progressive, demande de l'attention, de la disponibilité. La demande des disciples reste avec nous, et d'ailleurs particulièrement importante. C'est un désir de présence, mais aussi une ouverture. Ils invitent cet inconnu à entrer dans leur espace, dans leur intimité, parce qu'ils ne l'ont pas encore reconnu quand la demande est faite. Mais c'est peut-être là une clé. La résurrection ne s'impose pas, elle se reçoit, mais elle se joue aussi dans une hospitalité, dans une disponibilité à ce qui vient. Ils ont su faire cela, ces disciples. Eh bien, dans le cadre de notre deuxième dimanche, après Pâques, maintenant que le tombeau est vraiment vide et que nous l'avons bien constaté, ce texte rappelle que la résurrection ne se limite pas à un événement passé, c'est plutôt une dynamique et un processus qui continue. Elle se joue et se rejoue de nombreuses fois dans nos vies, chaque fois qu'un passage s'opère, chaque fois qu'une fermeture s'ouvre à nouveau, chaque fois qu'une parole redonne vie. Mais cette dynamique n'est pas uniforme, parce que ça aussi c'est une de nos tentatives fréquentes. Ça a marché une fois, ça marchera X fois et sous la même forme, pas de chance. À chaque fois c'est un visage un peu différent, il faut s'adapter. Pour certains, elle prendra la forme d'une confiance renouvelée, pour d'autres un simple regain de sens ou de confiance. Mais cette diversité d'approche et d'appropriation n'est pas un problème, c'est une richesse. C'est parce qu'elle est capable de parler à autant de gens qu'elle est réelle, qu'elle est vraie. C'est déjà un peu la Pentecôte. Sortir une phrase et se faire comprendre d'une aussi grande diversité, c'est déjà un peu la Pentecôte. En tout cas, cette parole témoigne de la manière dont un même récit peut nourrir toujours des parcours variés. Jésus ne s'est pas entouré d'une équipe performante et homogène après un processus de recrutement standardisé, avec entretien, mise en situation, tests divers, etc., etc. Il s'est entouré d'une petite bande d'imparfaits qui avaient tout à apprendre. Quel courage ! Le chemin d'Emmaüs peut être compris aussi comme une invitation de ce genre, non pas adhérer à une interprétation unique déjà faite, mais entrer en soi-même dans ce cheminement qui s'adresse forcément à des imparfaits puisqu'ils ont de la route à faire. Relire son histoire, reconnaître des moments où quelque chose a changé, où une présence s'est fait sentir, même de manière fugitive. La résurrection n'est pas une affirmation doctrinale. C'est plutôt une question adressée à chacun. Où ai-je fait l'expérience d'un passage de la mort à la vie? Où ai-je senti mon cœur brûler au-dedans? Comment cette expérience peut-elle orienter ma manière de vivre aujourd'hui? Vous voyez, chaque fois que nous relisons ces passages, des questions de cet ordre surgissent. C'est pour ça que c'est inépuisable. Le récit se termine par un retour. De nuit, en direction du levant, donc du matin qui vient. Mais ils ne retournent pas vers une ville dangereuse d'abord, ils vont dans un endroit bien précis, ils rejoignent une communauté de gens aussi désespérés qu'eux quelques heures plus tôt. Mais eux ont déjà compris quelque chose. Ils auraient pu continuer leur chemin plus loin en gardant ça pour eux. L'expérience qu'ils ont faite ne restera pas isolé parce qu'ils vont la partager avec les autres. Les disciples racontent, une fois arrivés, ce qu'ils ont vécu. Ce récit devient à son tour source d'espérance pour les autres. Là encore, pas d'uniformité. Tous ceux qui écouteront le comprendront bien chacun à leur manière. On peut leur faire confiance. Il y aura pourtant circulation de la parole, mise en commun d'expériences. En définitive, le récit d'Emmaüs ne nous dit pas seulement que Jésus est vivant. Il le dit, bien sûr, d'une certaine manière. Il nous montre aussi comment cette affirmation peut prendre sens, se construire, se transformer au fil d'un chemin. Il ouvre un espace où la résurrection peut être reçue, vécue et interprétée de multiples manières. C'est peut-être là qu'est sa force, d'ailleurs. Ne pas enfermer, mais ouvrir. Ne pas imposer, mais inviter à relire encore et encore. Ne pas conclure, surtout, mais mettre en route. Amen.